Maël Bellec, bonjour.
Bonjour.
Alors, pourquoi aujourd'hui une telle exposition au musée Cernouski ?
Alors, cette exposition s'inscrit dans la continuité d'autres expositions qui ont eu lieu précédemment au musée Tchernouski. Il y avait d'abord eu 6 siècles de peinture chinoise qui devait avoir lieu en 2008, il me semble. Il y a eu en 2011 les artistes chinois à Paris. Et il y a eu en 2013 l'école de Shanghai. Et donc là, nous ouvrons cette exposition, l'école de Lingnan, qui se situe vraiment dans la continuité de ces expositions. La première exposition était une exposition de peinture ancienne. Puis on avait travaillé sur la question de la présence à Paris de ces artistes chinois dans la première moitié du XXe. Puis l'école de Shanghai, qui a été donc cette école de la fin du XIXe siècle. Et là, on est en quelque sorte entre les deux précédentes expositions, puisqu'on est sur une école qui est à la fois en quelque sorte la dernière grande école traditionnelle de peinture chinoise et en même temps la première avant-garde du XXe, avant la génération des pionniers tels que Su Beihong, Ling Fengnian, Yu Haisu.
C'est le dernier volet d'une trilogie ou l'ouverture vers une quatrième exposition ?
Oh, je n'ai pas fait le compte et je ne sais pas si on rangera ça dans une série de 4-5 expositions, mais le cycle ne va pas s'arrêter là puisque nous avons des projets d'exposition maintenant sur l'art chinois de la seconde moitié du XXe siècle. On progresse chronologiquement.
Eh bien, on attend ça avec beaucoup de curiosité. D'où viennent les œuvres que l'on peut voir dans cette exposition ?
Alors, toutes les œuvres chinoises viennent du musée de Hong Kong, qui a très généreusement accepté de nous prêter une part non négligeable de sa collection d'artistes de l'école de Lingnan, en retour d'une exposition qu'on avait faite chez eux au mois de juin, puisque l'exposition Artistes chinois à Paris a été présentée au musée de Hong Kong l'été dernier. Et par contre, les œuvres japonaises, puisqu'il y a quelques œuvres japonaises dans l'exposition, viennent de lieux plus variés. Il y a une œuvre qui vient du musée de Berlin, du musée d'art asiatique de Berlin. Il y a 2 œuvres qui sont déposées au musée Guimet par le centre Pompidou et par le musée d'Orsay. Il y a 3 œuvres qui viennent de la collection de monsieur et madame Feinberg qui avaient déjà présenté leurs œuvres chez nous lors de la précédente exposition. Et une œuvre qui vient d'une collection privée hollandaise également. Et enfin 2 œuvres qui viennent de nos collections.
Est-ce que c'est la première fois que ces œuvres sont montées en France ?
Alors, sur les œuvres du musée de Hong Kong, oui, c'est la première fois que toutes ces œuvres sont présentées en France. Les œuvres du musée Guimet avaient été présentées, mais ça remonte à longtemps. Sauf dans les collections permanentes du musée Guimet, il me semble avoir vu il y a quelques années le Yamamoto Shunkyo, mais ça restait des présentations temporaires et qu'il n'y avait pas de publication associée. Les autres œuvres, aussi bien celles de M. Feinberg, que les œuvres du collectionneur hollandais, c'est la première fois qu'elles sont présentées en France. Quant à nos œuvres, c'est également la première fois qu'elles sont présentées puisque ce sont des acquisitions toutes récentes.
Oui, donc il y a un caractère exceptionnel. Est-ce que vous pouvez dresser un état des lieux de la peinture chinoise dans les années 1880-1900, justement au moment de la naissance de l'école de Lingnan ?
À la fin du XIXe siècle, la peinture chinoise connaît des situations extrêmement contrastées selon les classes sociales dans lesquelles qu'on va étudier, selon les lieux également auxquels on va s'intéresser. Vous avez une multitude d'écoles régionales, vous avez effectivement quelques grandes écoles qu'on connaît bien, et notamment l'école de Shanghai, qui est probablement le grand mouvement moteur de l'innovation picturale à ce moment-là, qui va notamment s'intéresser déjà en partie à des œuvres japonaises, même si c'est moins visible que ce n'est le cas pour l'école de Lingnan, et qui va aussi s'intéresser à des œuvres occidentales, et qui va essayer d'adapter sa production à une clientèle bourgeoise marchande qui est la clientèle de Shanghai. Et puis vous avez ailleurs en Chine des écoles plus traditionnelles qui perdurent. Et par exemple à Canton, juste avant l'école de Lingnan, des écoles locales de peinture de fleurs et d'oiseaux qui s'inspirent de Yun Shoping.
Alors justement, Canton et sa région sont des territoires prédestinés pour la naissance d'une école de peinture qui s'ouvre à la modernité.
Tout à fait, et ce n'est pas un hasard si les artistes de l'école de Lingnan naissent dans cette région-là. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard non plus si un certain nombre de révolutionnaires contemporains, des gens comme Sun Yat-sen par exemple, viennent aussi de cette région-là. C'est vrai que Canton, C'est un lieu où depuis des siècles, on est ouvert aux influences étrangères, on commerce avec l'extérieur et vont circuler à Canton des œuvres occidentales, des gravures. Il y a même des écoles de peinture à l'encre à Canton, de peinture à l'huile, pardon, à Canton. Et également, même si je ne peux pas le prouver, je n'ai pas de preuves pour ça, il est vraisemblable que la peinture japonaise était assez bien connue également à Canton à ce moment-là, comme on peut le constater chez certains peintres du 19e dont les œuvres sont assez japonisantes.
Quelles sont les caractéristiques de cette école qui accompagne l'émergence d'une Chine républicaine ?
Alors, cette école a plusieurs caractéristiques. D'une part, il y a une spécificité liée à sa position chronologique qui va se trouver effectivement après l'école de Shanghai et avant la génération des pionniers qui vont véritablement rénover de fond en comble la peinture chinoise. Et donc, c'est une école qui fait la charnière finalement entre la tradition et la modernité. D'autre part, c'est une école pour laquelle l'une des spécificités, c'est l'implication politique des peintres qui vont être les grands maîtres de cette école. Gao Jianfu, Gao Qifeng et Chen Shuzhen sont des peintres qui veulent être autant peintres que militants et qui veulent rénover la Chine en plus de rénover la peinture, et des peintres pour qui la rénovation finalement de la Chine passe aussi par la révolution picturale.
Alors pourquoi ces artistes regardent-ils du côté du Japon ?
Alors c'est une question de génération en partie. En fait, vous avez en Chine depuis déjà plusieurs années, depuis la fin du 19e siècle, des intellectuels chinois qui pensent qu'il faut regarder ce qui se fait en Occident, qui, confrontés à la mainmise de plus en plus prégnante de l'Occident sur la Chine, pensent qu'il faut s'armer chez l'ennemi pour pouvoir résister. Et typiquement, le Japon l'a fait avec la révolution de Meiji. Et ça devient de plus en plus visible lorsqu'il y a la première guerre sino-japonaise gagnée par le Japon. Et ça devient encore plus visible lorsqu'il y a Port Arthur. Et les Chinois vont donc vouloir acquérir tout ce savoir occidental, mais ils ne sont pas encore prêts à aller en Europe, à aller en Occident. Et la plupart d'entre eux vont trouver un relais pour l'introduction de ces idées au Japon. Il y a évidemment des questions pratiques, puisqu'il est plus facile de passer quelques années au Japon que de passer quelques années en Europe. Et il y a aussi des questions plus culturelles, puisque le Japon avait en quelque sorte déjà trouvé une formule, et sur le plan pictural notamment avec le Nihonga, qui permettait de prémâcher le travail, en quelque sorte, pour les intellectuels et les artistes chinois qui pouvaient déjà trouver au Japon une première synthèse entre les idées occidentales et les idées orientales.
Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas classer le Japon du côté de la recherche de plus de réalisme ? Par rapport à ce que j'ai vu dans l'exposition, ça, j'ai eu l'impression que c'était un peu ça.
Alors, le Japon, à ce moment-là, en tout cas en peinture, le grand mouvement dominant, c'est le Nihonga. Le Nihonga est un mouvement qui va, en quelque sorte, résumer la plupart des courants de peinture traditionnelle au Japon et qui va s'opposer au yoga, c'est-à-dire à la peinture occidentale. Le Nihonga signifiant peinture japonaise, tout simplement. Et évidemment, on a à l'intérieur de cette école des styles extrêmement variés, puisqu'on essaye de faire une synthèse de tout ce qui a existé auparavant. Mais il est vrai qu'il y a une part non négligeable de techniques occidentales qui sont aussi intégrées dans cette école de Nihonga, aussi bien des techniques de perspective que des techniques d'ombrage, mais qui en fait avaient déjà été intégrées dans la peinture japonaise depuis un petit moment, notamment avec les études hollandaises à partir du XVIIIe siècle.
Comment, sur fond de montée du nationalisme, est perçue cette allégeance esthétique à l'art japonais ?
Ah, alors c'est une question un peu compliquée et qui va se modifier au cours des années. Dans un premier temps, ces artistes de l'école de Lingnan considèrent que le Japon fournit des modèles qui peuvent être utiles à la Chine et à la fondation d'une nouvelle peinture nationale. Mais évidemment, la plupart des artistes de l'époque et des artistes importants vont essayer de se tailler la part du lion sur la scène artistique nationale, et il va y avoir des querelles extrêmement vives entre ces artistes. Et on va effectivement reprocher aux artistes de l'école de Lingnan d'abord de ne pas être totalement innovants, puisqu'ils font de la copie de peinture japonaise, même si ce jugement est à nuancer. Et on va leur reprocher d'être inféodés à des écoles étrangères. Dans un premier temps, ça pose pas forcément énormément de problèmes, même si on voit des artistes comme Gao Jianfu vers la fin des années 20 revenir vers une inspiration beaucoup plus chinoise, notamment dans ses peintures de paysages. Mais à partir du moment des années 30 et à partir du moment où le Japon prend pied dans le nord-est de la Chine, puis avec la Seconde Guerre sino-japonaise, cette référence japonaise devient de plus en plus dure à porter et va être mise en sourdine le plus possible par ces artistes, même si jusqu'à la fin on retrouve des résurgences d'influence japonaise dans certaines œuvres et notamment dans certaines formes parfois de relief ou dans certains sujets.
Quels sont les sujets de prédilection des peintres de l'école de Lingnan ?
C'est une école qui a un grand éclectisme de sujets. Ils sont formés dans un premier temps à la peinture de fleurs et d'oiseaux du Guangdong. Et puis, ils vont continuer à pratiquer ce type de sujet. Et on trouve jusqu'à la fin, chez Gao Jianfu, des sujets floraux, des sujets de petits animaux, type des souris avec des nèfles, par exemple, comme on en a une dans l'exposition. Et en même temps, ce n'est pas forcément pour cela qu'ils sont le plus connus. On trouve aussi des paysages, mais là aussi, ce n'est pas ce qui a marqué. Ce qui a surtout marqué pour cette école de Lingnan, c'est les peintures d'animaux. Et ces peintures d'animaux en tension, dans des positions dynamiques, qui vont devenir véritablement des symboles de l'héroïsme révolutionnaire. Et on va retrouver aussi bien dans les peintures de fleurs et d'oiseaux que dans ces peintures d'animaux, des choix d'iconographie qui deviennent des images politiques à part entière.
Qu'est-ce que la peinture sans os que vous évoquez dans l'exposition à un moment ?
Alors la peinture sans os, c'est une technique de peinture qui est associée au nom de Yun Shoping, même s'il n'est pas le premier à l'avoir utilisée, qui est une technique de lavis de couleur qu'on va utiliser sans trait de contour. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas avec un dessin, mais simplement avec l'application de lavis qui vont dessiner, enfin qui vont former des volumes, des formes sur le papier. Et c'est une technique qui est souvent plus difficile à maîtriser que le simple dessin, mais qui permet d'obtenir une plus grande subtilité dans le rendu naturaliste des fleurs, des feuilles, des légumes également, et qui permet aussi de dégrader des nuances de teinte extrêmement subtiles.
Et puisqu'on est au chapitre de la technique, quelles sont les caractéristiques qu'apporte à la peinture cette école de Lingnan ?
Alors là encore, la réponse serait différenciée selon les périodes. Évidemment, vous avez des traits techniques qui vont perdurer, notamment l'acquisition des techniques Zhuang Fen et Zhuang Shui auprès des maîtres de Chen Shuzhen et de Gao Jianfu, donc Julian. Donc cette technique, c'est un deuxième passage sur la peinture. Alors que la peinture est encore humide, on va projeter des gouttes d'eau où on va projeter des pigments en poudre sur la peinture. Les gouttes d'eau vont former des auréoles, vont introduire des nuances de teinte, vont pouvoir figurer par exemple des traits de lumière sur les fleurs ou sur les légumes. Et la poudre va se sédimenter dans l'eau qui est encore à la surface de la peinture et va elle aussi créer des nuances de teinte. Donc ces techniques-là, on va les trouver jusqu'à la fin de la vie de Gao Jianfu par exemple et vont aussi être apprises par les maîtres de la seconde génération. Par ailleurs, on a aussi toute la maîtrise des techniques de rendu du volume par les modulations des ombrages, qui sont très récurrentes chez ces artistes, même si Chen Shuzhen, lui, évolue à partir des années 30 vers un style de plus en plus plat et vers une stylisation de plus en plus grande. Et il ne faut peut-être pas parler totalement en termes de style, mais plutôt en termes d'objectifs visuels. Et ce qui est très prégnant chez ces artistes, c'est la volonté d'avoir un effet visuel extrêmement fort sur les spectateurs, de les fasciner quelque part dans certaines de leurs compositions. Et c'est lié aussi à leurs idées politiques, puisque cette peinture doit avoir un effet sur la population et doit en quelque sorte en appeler aux masses de la population chinoise immédiatement.
Alors justement, puisque ce sont des artistes engagés, voire militants, ils ont aussi conscience de faire bouger la peinture de leur temps, et ils fondent des académies, justement, pour transmettre cet enseignement.
Tout à fait. C'est très net chez Gao Jianfu, qui, tout au long de sa vie, va avoir à cœur d'essayer de diffuser ses innovations picturales. Il va fonder des journaux à cette fin, qui sont des journaux qui sont moitié des journaux politiques, moitié des journaux dans lesquels il va y avoir des reproductions artistiques. Et il est persuadé qu'il a trouvé la bonne formule et qu'il faut donc la populariser au maximum. Il espère des soutiens institutionnels, il va obtenir des postes d'enseignant également et il va lui-même former ses propres élèves dans ses académies, dans son atelier, de même que Gao Qifeng. Et ils vont former plus d'une dizaine d'artistes importants de la seconde génération de l'école de Lingnan qui vont eux-mêmes former d'autres artistes. Et c'est ce qui, pour eux, va permettre d'assurer la survie de cette école au-delà de leur propre existence. Et en même temps, c'est aussi un moyen de subsistance parce que, évidemment, c'est une rentrée d'argent, tous les cours qu'ils donnent. Mais de fait, leur objectif est atteint parce que si l'école de Lingnan n'a pas eu de postérité directe parmi les courants majeurs de l'histoire de l'art de la seconde moitié du XXe siècle en Chine, elle est toujours vivante aujourd'hui avec des branches locales à Hong Kong, Taïwan ou même au Canada.
Oui, parce qu'en fait, c'est cette influence qui s'est étendue à Hong Kong, Taïwan et en Amérique du Nord.
Alors, en fait, tout simplement, ce sont les artistes de la seconde génération. Lorsque le PCC gagne la guerre civile, établit la République populaire de Chine, il y a quelques artistes comme Guan Shanyue, par exemple, qui vont rester en Chine continentale, mais la plupart des autres artistes de l'école de Lingnan, qui était déjà une école en partie périphérique, puisque c'était une école cantonaise, même si, évidemment, ils ont travaillé dans d'autres endroits au cours de leur existence, ces artistes vont le plus souvent partir de Chine continentale pour aller vers Taïwan ou vers Hong Kong. Et c'est eux qui vont continuer à faire vivre l'école de Lingnan, qui vont aussi contribuer à ce que cette école de Lingnan ne soit pas oubliée, alors qu'évidemment la Chine continentale est passée à un autre paradigme artistique, et qui vont publier des livres sur Gao Jianfu et sur Gao Qifeng, qui vont organiser des expositions, qui vont donner des œuvres au musée, et notamment au musée de Hong Kong, et qui vont former d'autres élèves. Et qui fait qu'aujourd'hui, on en est à la quatrième génération en fait, d'artistes de l'école de Lingnan.
Et grâce à cette transmission, on peut même voir leurs œuvres au musée Cernouski à Paris. Maëlle Bellec, merci.